ça y est, on est en studio avec Bruno pour Écriture Dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine. Alors, Écriture Dessinée, c'est un titre que je revendique, j'affirme, c'est un choix vraiment conscient, parce qu'en fait, elles mettent en œuvre de nouvelles formes de récits en images, inventent sans cesse d'autres rapports texte-image, explorent les possibilités infinies de la mise en scène des doubles pages, ces unités de récit de la bande dessinée. Avec Ceux qui sont nés quelque part, Lisa Abbe s'affranchit dès les premières pages des contraintes habituelles que nombre d'auteurs s'imposent. Bruno Heitz parlait il y a déjà plus de 20 ans du ghetto de la bande dessinée. Le récit dessiné de Lisa Abbe met en scène Marlène et son projet de s'installer comme agricultrice qui rencontre de nombreuses difficultés. Et nous serons donc avec Lisa Abbe à partir de 14h15 pour évoquer son expérience de liberté et celle de Marlène. A tout de suite.
Écriture dessinée.
Alors, bien sûr, la partie musicale va consacrer la chanson de Brassens, « Balade pour les gens qui sont nés quelque part ». Parce que c'est bien le titre de ce récit de Lisa Abbe, « Les gens qui sont nés quelque part ». Et puis, on entendra aussi également dans cette émission Meryl avec un de ses morceaux phares, « Coucou ». Et puis, un titre de Dick Engarn, peut-être un peu moins connu, étonnant, il s'appelle « Loin de là ». Donc voilà pour la programmation musicale qui a été choisie par Lisa Abbe. Des livres, bien sûr, pour encadrer celui de Lisa Abbe. Et je voudrais commencer par « Le petit maire ». Alors, c'est un livre que je présente avec un peu de décalage, puisqu'il est sorti au moment des élections. Et donc, il y avait vraiment une volonté aussi de relier cette nouveauté avec l'actualité électorale. Alors, le livre est une œuvre de Laurent Turpin, qui est scénariste, et d'Olivier Berlion, qui est dessinateur, qui réalise aussi des livres en tant qu'auteur complet. Et Laurent Turpin est, et c'est un lien fort avec la bande dessinée, directeur de la rédaction de BDZoom, qui est un site internet sur la bande dessinée. Alors, Le petit maire est déjà donc dans ce contexte électoral, et il faut rappeler que la France compte exactement 34 955 communes, dont 30 772 sont classées comme rurales avec moins de 2000 habitants. Et donc, dans ces communes, il y a aussi beaucoup de communes qui ont moins de 1000 habitants. Et d'ailleurs, des élus aiment à répéter, même s'il y a des communes de petite taille, il n'y a pas de petites communes. Et donc Laurent Turpin, qui en fait est devenu maire en 2020, et il est maire d'une petite commune à Sceaux-de-Mont, dans le Pas-de-Calais, c'est un village de 420 habitants. Alors, Le petit maire est une façon de présenter le parcours d'un maire d'une petite commune et donc de le mettre en récit, en image. Et Laurent Turpin va décrire le quotidien d'un maire d'une petite commune avec cette proximité. Vous savez, vous êtes dans un village, vous croisez le maire qui est en train d'acheter ses carottes chez l'épicier, et vous allez lui parler du problème que vous avez avec votre voisin. Il choisit ses carottes, il est dans une autre chose. Et en fait, Il n'y a même pas besoin de le croiser par hasard. Les gens l'appellent la nuit, le week-end, pour essayer de régler, de retrouver le portefeuille qui a été perdu il y a quelques heures, et ainsi de suite. Donc, Laurent Turpin va évoquer cette relation avec les concitoyens qui sert et qui alimente assez régulièrement ce quotidien. Alors, bien heureusement, ça ne se limite pas à ça, et il y a vraiment dans ce récit, dans le petit maire, aussi ce que veut dire administrer une commune, quels sont les choix et l'importance de ce pouvoir local au plus près des habitants. Il y a par exemple l'école, la rénovation d'une école pour qu'elle soit accueillante pour les enfants, et aussi le combat pour le maintien des classes, et ça passe également par déjà la rénovation de ce bâtiment. Il y a tout un enjeu sur le patrimoine, le choix des projets, la réalisation d'un parc pour qu'il puisse y avoir aussi une vie quotidienne pour les habitants les plus agréables possibles. C'est vraiment une chronique d'un mandat électoral de 6 années et... Laurent Turpin s'est limité aux 6 années de ce dernier mandat. Et il y a donc une immersion de notre part dans le quotidien du maire. Alors, j'ai regretté 2-3 choses, notamment où, à un moment, Laurent Turpin évoque une liste participative et qui permettait de rassembler plus la population. Et puis, on ne va pas en reparler de ce que peut représenter une démocratie participative pour une commune de cette taille-là. Et ça manque de façon assez cruelle, et notamment la partie intercommunautaire sur toute la communauté de communes, en quoi une petite commune peut avoir une parole déterminante dans une communauté de communes, comment elle va participer pleinement au projet. Quand il a été question du transfert de la gestion de l'eau à la communauté de communes, beaucoup de petites communes ont pris la parole pour défendre soit des intérêts plus qui étaient propres à leur municipalité, soit au contraire pour œuvrer pour qu'il y ait ce transfert et un partage de l'eau plus complet, plus juste entre toutes les ressources et toutes les communes d'une communauté de communes. Il y a ce manque ainsi qui fait que on n'a pas complètement vraiment les par exemple les représentations quelles est toutes les instances auxquelles participe le maire. C'est évoqué à différents moments, mais juste comme simplement des réunions très fréquentes. C'est un livre qui est porté également par Olivier Berlion, qui est un auteur de bande dessinée, qui a démarré une œuvre il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, et qui a un trait qui a beaucoup évolué tout au long de sa carrière, et qui, avec Le Petit Maire, a choisi d'avoir une approche très précise des différents personnages, et avoir une évocation des décors pour qui reste toujours un peu en retrait de cette vie des personnages. Winsor Mackay avait la même démarche, avec un trait très appuyé à chaque fois qu'un personnage était dessiné, et les décors ainsi se retrouvaient toujours avec un arrière-plan affirmé, avec cette légèreté de trait. Olivier Berlion a choisi un trait de plume qui n'est pas juste une ligne simple, mais qui est une juxtaposition d'un ensemble de petits traits qui rend les dessins extrêmement vivants. Et à chaque fois, il y a cette cette précision dans la représentation des visages, des attitudes, des expressions, et puis ce décor qui est là, précis, mais qui ne prend jamais la place sur les personnages. C'est un livre qui se lit avec très grand plaisir parce qu'on est dans cette vie locale, cette vie municipale de ce qui est un petit maire d'une commune et finalement de son importance essentielle. Le Petit Maire de Laurent Turpin et Olivier Berlion est publié par les Arènes Bande Dessinée. Les 136 pages de ce livre sont au prix de 22 € et le livre a été imprimé en Italie. Moustique. Un autre livre qui a un lien fort avec la politique, c'est le dernier livre de François Ruffin qui s'intitule « Picardie, splendeur ». Alors, c'est pas par hasard que François Ruffin a imaginé et a envie de s'exprimer aussi en bande dessinée, d'utiliser aussi support. Sa revue, son périodique Fakir, fait régulièrement la place à des dessinateurs politiques. Picardie Splendor est directement relié avec l'œuvre d'un Américain, Harvey Pekar, qui s'appelait American Splendor et qui était un auteur qui, en fait, travaillait dans un hôpital. Et il a raconté son quotidien, il a raconté la façon dont fonctionnait l'hôpital, les rapports humains qui s'y déroulaient, les conditions d'emploi. Et c'est la rencontre avec un dessinateur américain, Robert Crumb, qui à l'époque lui avait donné vraiment l'envie de s'engager pleinement dans ce projet. 3 tomes sont parus, ça reste des très beaux livres sur la société américaine de l'époque, mais pas que. Et donc, eh bien, après American Splendor, François Ruffin a fait Picardie Splendor, puisque cet ensemble d'histoires se déroule en Picardie. En fait, François Ruffin, qui est député, qui est au plus près du terrain, d'abord avec son travail de journaliste, et puis aussi en tant que député, il sillonne la France pour pouvoir recueillir des témoignages sur les luttes en cours et de vraiment pouvoir parler et dresser un portrait le plus juste possible de qui on est. Alors, c'est une façon, et le principe de cette bande dessinée est, comme dans beaucoup de démarches de François Ruffin, de donner la parole aux gens. Et dans ce mot « gens », qui est en fait un peu un fourre-tout, là, il y a vraiment des démarches qui sont présentés de façon très imbriquée. C'est pas l'histoire d'un tel et puis l'histoire se clôt et on passe à une autre histoire avec un autre dessinateur. François Ruffin a choisi de s'associer avec Laurent Galandon, qui est scénariste de bande dessinée, qui avait notamment fait ce très beau livre sur les LIP des héros ordinaires, et qui a eu beaucoup de scénarios qui sont aussi des récits sociaux et qui mettent en scène de grandes questions de société. C'est un collectif de dessinateurs qui porte ces différentes histoires, elles sont nombreuses, et en fait, s'il y a un petit bandeau avec un titre, celui de l'histoire, il y a vraiment une façon d'imbriquer les histoires pour qu'elles soient toutes finalement sur ce même panorama de qui on est. Il y a des pages très justes, très forte. Il y a notamment, à un moment, François Ruffin se retrouve dans une banlieue. L'affichage de l'extrême droite est assez présent. Et il y a sur scène des jeunes qui font une performance où tous auront leur place, même ceux qui sont en fauteuil. Il y a une façon, avec ce travail artistique, d'avoir une dimension d'inclusion. Et François Ruffin, qui est à côté de certainement une des responsables de cette performance, il lui dit « Voilà la France qu'on veut ». « Non, ce n'est pas la France qu'on veut », répond-elle. « C'est la France qu'on a. Et de toute façon, ils ne nous l'enlèveront pas. » C'est très juste, parce que avec sa démarche, il y a vraiment aussi en arrière-plan cette façon de faire peuple, de pouvoir accumuler l'ensemble des démarches. Il y a toute une partie sur l'hôpital avec ce titre Corps à corps où des salariés des hôpitaux parlent de leurs difficultés à pratiquer quotidiennement un travail très difficile, très dur, où le corps est sollicité en permanence avec des accidents du travail fréquents parce que les conditions de travail ne sont pas les bonnes, ne sont pas sécures. Et il y a vraiment un malaise essentiel. Les salariés disent, mais les politiques ne nous aideront jamais, qu'ils viennent prendre notre place quelques jours et le discours sera complètement différent. À chaque fois, il y a cette façon de pointer avec justesse des situations fortes, avec parfois des épisodes qui vont faire écho et retracer la difficulté, par exemple, pour une mère de famille de pouvoir élever sa fille seule, tout en devant assurer, avec des horaires très difficiles, eh bien, le nettoyage de telle ou telle administration. C'est un livre fort parce que il remet le politique à un niveau du quotidien avec cette possibilité justement de faire peuple. C'est une réussite et on retrouve par exemple les Olivier Berlion parmi le collectif de dessinateurs et puis Damien Cuvillier dont on parlera après l'entretien avec Lisa Abba. Picardie, Splendeur de François Ruffin et Laurent Galandon avec un collectif de 11 dessinateurs. C'est publié par les Arènes Bande Dessinée également. Les 104 pages de ce livre sont au prix de 22 € et le livre a été imprimé en France. Et on retrouve Brassens.
La balade des gens qui sont nés quelque part. C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux, qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher, qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie, vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris, ou de Rome, ou de Sète, ou du diable Vauvert, ou bien de Zanzibar. Ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches, enfouissent la tête, on trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leur baudruche. Leur bulle de savon, c'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est
pas un lieu comme... Lisa Abb crée son livre « Les gens qui sont nés quelque part » avec une complète liberté. Elle raconte deux parcours de femmes dans un village d'Ardèche. Celui de Marlène, qui veut s'installer comme agricultrice et qui se heurte à de nombreuses difficultés, et celui d'Irvine, de passage dans la maison familiale dans ce même village, dont les projets sont loin de la campagne. Pour mettre en image cette transformation du monde rural, où Lisa Abb interroge les notions d'appartenance à la terre, d'usage et de partage de la nature, l'autrice refuse le cadre de l'image, le cadre de la planche dans lequel sont inscrits les cases, la régularité du découpage. Elle choisit une mise en scène libre où le récit dessiné se déploie au fur et à mesure de l'écriture, jouant avec les unités de temps et de lieu, les grandes images et un temps du récit rythmé. Elle dessine d'un trait vif à l'énergie, au plus près de la dynamique des personnages, écartant les questions de lisibilité pouvant contraindre un dessin. À la manière de Johann Sfar, le texte est calligraphié, dessiné, sans besogne, avec la même énergie de trait. Résultat, nous côtoyons Marlène et son fils Anis et son frère. Nous sommes là tout au long de son parcours pour trouver des terres. Nous sommes avec Irvine dans les odeurs de la maison familiale. Les gens qui sont nés quelque part trouvent un nouveau point d'équilibre, débarrassé des habituelles contraintes des bandes dessinées actuelles. Le livre affirme la puissance créative des écritures dessinées qui refusent d'être figées. Sa lecture est une expérience de liberté. Nous sommes avec Lisa Abb pour découvrir ses processus de création. Bonjour Lisa Abb.
Bonjour.
Alors, dans votre parcours, le communiqué de presse évoque des études d'illustration et de bande dessinée au lycée Auguste Renoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'était cette formation à la bande dessinée et à l'illustration?
Ouais, c'était il y a un petit moment, hein, c'était il y a une quinzaine d'années maintenant, donc ça a certainement changé. Mais à l'époque, il y avait peu d'études en bande dessinée en France, déjà. C'était une des rares formations. Et moi, c'était des études, non pas de beaux-arts, mais d'art appliqué. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver une autre direction que artiste. On va essayer d'être peut-être plus, s'inscrire dans un monde du travail. Donc, illustrateur, ça s'inscrit aussi plus dans un esprit de commande. Donc on nous apprend à répondre à une commande aussi d'un client, à construire un livre, à construire sa pensée, etc. etc. tout en travaillant le dessin, son trait. Donc c'était super de pouvoir pour accéder à ces études.
Alors, quand vous mettez en chantier les gens qui sont nés quelque part, qu'est-ce que vous utilisez de cette formation ?
Ben, la narration, certainement. puisqu'une bande dessinée, c'est pas que du dessin, c'est avant tout ce qu'on raconte et comment on va le raconter. Donc, il faut que ce soit compréhensible, facile à lire. Sinon ça marche pas. Donc, oui, vraiment ça, la narration. Et puis, certainement, le dessin aussi, bien sûr.
Alors, Lisa Abb, effectivement, les gens qui sont nés quelque part est facile à lire. Mais par contre, vous n'utilisez pas les repères habituels. Le rectangle dans lequel est inscrit les cases de la planche, la double page. Comment c'est mis en place votre écriture dessinée, Lisa Abb?
Moi, j'admire beaucoup des auteurs comme Catherine Meurice, Brett Échet évidemment, enfin des gens qui cassent un peu les codes de la bande dessinée aussi et qui la font évoluer. Et en fait, je pense que c'est assez naturellement que je me suis dirigée vers ce mode-là, plutôt, on dit, roman graphique, même si je préfère bande dessinée. Mais cette manière d'ouvrir un petit peu les cases vers d'autres choses, de sortir un peu du conventionnel. Mais je crois que c'est de nombreuses personnes de ma génération. Je suis pas, je suis pas précurseuse dans ce domaine.
Alors, comment se fait l'écriture d'un tel récit, Lisa Abbe ? Comment procédez-vous ?
Et alors pour celui-ci, c'est un peu particulier puisque c'est la vie. Moi, quand j'ai commencé ce récit, c'est aussi parce que beaucoup de gens me parlaient de. Quand je suis arrivée à Paris déjà pour faire mes études, les gens se figuraient la campagne comme un lieu un peu étrange, exotique presque, parisien, quoi. Et ça a commencé là, je pense, à me dire, mais. C'est bizarre, cette vision du monde rural, elle est fausse, elle est exotique, ça va pas, il faudrait raconter le monde rural. Bon, ça a pris 15 ans. Et là maintenant, moi j'habite en Ardèche et c'est la vie de tous mes amis agriculteurs surtout, de tous les gens qui habitent autour de moi, mes voisins. J'habite dans un tout petit village, donc je côtoie des gens différents du village. Et comment rendre intéressant ce monde rural qui est mon quotidien. Donc voilà, ça s'est construit petit à petit, ça a pris plusieurs années quand même.
Alors, il y a une volonté très vite d'en faire un récit autobiographique, Lisa Abbe ?
Ah ben justement, c'est pas un récit autobiographique.
Alors, précisez-nous où vous êtes dans ce récit. Quelle est la
Moi,
part
je suis
de fiction
un petit peu partout et mais nulle part à la fois. Comme je pense, dans plein de récits, on est obligé de se raconter soi-même, bien sûr, on raconte ce qui nous touche. Mais c'est pas ma vie. Moi, ma vie, c'est pas devenir agricultrice ou c'est pas. Enfin, il y a des choses de ma vie. Par exemple, je raconte l'IVG. C'est vrai, ça c'est quelque chose que j'ai vécu et je voulais aussi en parler. Mais bon, je fais pas de musique, par exemple. Mes personnages font de la musique. J'ai dû me renseigner beaucoup sur ce monde-là. J'avais de la chance d'avoir beaucoup de gens qui m'ont aidé, bien sûr. Pour la chasse, c'est pareil. Je parle beaucoup de la chasse parce que c'est un monde qui m'a toujours rendue très curieuse. Mais moi, je suis pas du tout ni chasseuse, ni issue d'une famille de chasseurs. Enfin, je veux dire, je connaissais pas du tout ce monde, quoi. Donc, j'ai dû l'approcher. Et le monde agricole, il est plus proche de moi par mes amis, donc c'est quelque chose dont on parle souvent.
Et comment se fait l'écriture ? Est-ce que vous dessinez, vous écrivez les dialogues au fur et à mesure ? Est-ce que vous avez une vision plus d'ensemble avec quelques repères dans l'écriture ? Ou vous voulez aller à tel endroit ? Comment se passe cette écriture au long cours, vous avez parlé de 15 ans.
C'est une bonne question. Ça fait 3 ans que j'écris ce récit à peu près. Ça fait 3 ans que je mets en place ce récit, même si on a toujours un récit qui trotte dans la tête. Mais, et moi, je savais juste que je voulais parler du rapport à la Terre, de comment est-ce qu'on se sent de venir de quelque part ou au contraire qu'on s'approprie un endroit et comment les gens nous perçoivent dans cet endroit autour quoi. Donc ça c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Et après, moi j'écris pas mal les dialogues dans des carnets. J'écris des dialogues avec des personnages qui aujourd'hui n'existent plus puisque le récit a évolué énormément. Et à partir de ces dialogues, je fais des storyboards. Donc j'ai des carnets remplis de dialogues qui n'ont jamais vu le jour en BD.
Alors, comment les travaillez-vous, ces dialogues, par rapport au dessin, Lisa Abbe ? Est-ce que vous utilisez la voix ? Est-ce que c'est juste dans l'immersion dans l'écriture ?
Oui, l'immersion dans l'écriture, plutôt. Moi, j'essaye de me figurer quels sont mes personnages, de leur donner un caractère, une vie, de les imaginer vivre et de me mettre à leur place. Mais c'est un exercice qui m'a coûté beaucoup quand même, c'est d'écrire l'histoire. Moi je suis très à l'aise en dessin, mais écrire une histoire, c'est une longue histoire en plus. C'est un travail très long la préparation, tout ce qui est en amont du dessin, c'est ce qui m'a pris bien plus de temps que le dessin lui-même.
Est-ce qu'il y a eu une relecture, une fois que l'ensemble du livre est en place? Est-ce que vous retravaillez encore vos dialogues? Est-ce que vous changez des choses jusqu'au dernier moment?
Ouais, au dernier moment, pas trop, parce qu'il faut, que le livre sorte. Mais y a mon éditrice déjà qui était comme un coach à côté pour me relire patiemment, me dire quand ça, on ne comprend pas, quand c'est pas fluide, ou si au contraire ça lui plaît, ça ne lui plaît pas. Plus comme un dialogue entre elle et moi. Et après, il y a quelques personnes de mon entourage proche qui sont des fidèles relecteurs et relectrices, donc qui connaissent l'histoire depuis le début, mon compagnon et quelques amis, mais c'est vraiment 4 ou 5 personnes, quoi. Parce que c'est quand même assez éprouvant à lire au début, les storyboards. C'est des petits dessins brouillons, donc c'est pas facile, quoi.
Qu'est-ce que vous pouvez entendre comme remarque quand vous êtes à ce moment-là de l'écriture et des relectures que les personnes vous font?
Eh ben, alors ça c'est moi, mais j'aime bien me poser la question de est-ce que ce personnage, par exemple, il y a beaucoup de personnages queer dans mon livre, est-ce que ça apporte quelque chose à ce moment-là au récit? Est-ce que si c'est une femme ou un homme, comment ce personnage va réagir? Il y a beaucoup de femmes aussi dans mon récit parce que j'ai besoin de classer des héroïnes plus que des héros, même s'il n'y a pas de héros vraiment dans mon livre. Et est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on pourrait avoir, nous, entre nous, ce genre de conversation? Ou au contraire, j'ai complètement imaginé un truc qui n'arrivera pas? Mais il y a beaucoup des situations qui sont des situations qui sont arrivées à mes amis ou des dialogues auxquels on parle beaucoup. Par exemple, il y a des amis à un moment qui parlent de résidences secondaires et qui râlent sur les résidences secondaires et les volets fermés. Et ça, c'est des discussions qu'on a tout le temps à la campagne, j'ai l'impression, surtout l'hiver. Donc pareil pour sur la chasse, oh là là, j'ai eu peur aujourd'hui quand je suis allée me balader. Ça, c'est des discussions qu'on a tout le temps, quoi. Donc c'est assez facile entre guillemets de trouver. Après il faut que ce soit juste, il faut que ce soit réaliste.
Lisa, je vous propose le deuxième choix des musiques avec le coucou de Meryl et puis on se retrouve juste après.
Trust me. Coucou, lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout, guili guili. Coucou, lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et partout, guili guili. Ses mains à terre, ses fesses en l'air, elle s'est pliée en quatre. Ne lui dis pas comment faire, sa madame était dépendante. Sa position est basse, mais c'est elle, elle a la cote. Les mains posées sur le bassin, autour d'elle, tout le monde se tape. Oh là là, les cadres, les bandits dos en bas des blocs. Oh là là, sa wine est classique, elle a mis tout le monde d'accord. Oh là là, libérez-la même dans les plus grandes vallées de mort. C'est Dieu qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci. Follow me, c'est vrai, elle est ma vie. Paquita, bia la oui, ah oui. C'est papa qui donne, on dit merci. Merci. Coucou, là là. La tête, les fesses et la moula. Elle danse comme une rafale de balles, elle me sait sur le terrain. Elle fait rouler les mécaniques, elle fait marcher les ménages. Elle se fait traiter de salope par celles qui ne pourront jamais faire ça. Les cadres, les bandits dos en bas des blocs. Oh là là, sa wine est classique, elle a mis tout le monde d'accord. Oh là là, libérez-la même dans les plus grandes vallées de mort. C'est Dieu qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci. Follow me, c'est vrai, elle est ma vie. Paquita, bia la oui, ah oui. C'est papa qui donne, on dit merci. Perfect.
La moula.
Elle a tout,
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Lisa Abbe à l'occasion de la parution de son livre « Les gens qui sont nés quelque part ». Alors, Lisa Abbe, sur la partie dessin, vous avez évoqué tout à l'heure le storyboard avec des dessins rapidement gribouillés. Comment se met en chantier cette partie dessin ?
Comment se met en chantier ? Ben, comme je vous disais, j'écris les dialogues. Après, je fais mes petits storyboards, donc ça ressemble à des petits brouillons de la planche, mais alors avec des bonhommes bâtons. Et pour voir un petit peu comment le découpage peut se faire, donc le découpage c'est dans telle case mes personnages vont dire ça, dans telle autre ils vont rien dire, et il faut pas que ça prenne non plus trop de pages, parce qu'on arrive vite à 200 pages finalement, donc on essaye que chaque séquence fasse pas plus de 10 pages par exemple, et puis après, il faut imaginer le récit dans son ensemble. Donc, est-ce que ça marche de faire telle scène après telle autre, etc., etc. C'est un long travail.
Alors, je le disais tout à l'heure, votre livre et les images sont portées par un dessin très vif. Il y a vraiment une volonté de mettre en scène sans spectaculaire, sans virtuosité, mais avec une vivacité qui finalement nous place au plus près des personnages. Alors, comment êtes-vous sur votre table à dessin ou sur votre palette graphique, puisque ça peut être ça aussi ?
Comment je voulais dire avec quels outils, comment je travaille ?
Comment se passe le dessin d'une planche quand vous êtes sur votre planche à dessin ou votre palette graphique ? Est-ce que c'est à l'énergie ? Est-ce que vous reprenez ? Comment ça se passe ?
Eh ben, déjà, quand je fais le dessin, je réfléchis plus normalement. Je réfléchis avant, quand j'ai fait le storyboard, les dialogues, etc. Donc, et quand j'ai fait toutes mes recherches, par exemple, si je dois dessiner, j'en sais rien, un pick-up, par exemple, je ne vais pas dessiner un pick-up de tête, donc je vais prendre des photos, je vais prendre des photos de gens dedans, etc. Donc, d'abord, j'ai fait mon storyboard, ensuite, j'ai fait le crayonné, donc c'est vraiment la planche, mais au crayon. Et après, quand je fais le dessin, je vide mon cerveau et c'est fini, quoi. Je ne reviens pas en arrière. De toute façon, c'est le moment où, si on change d'avis, en général, on fait des erreurs. Et là, c'est un peu plus. Enfin, je me mets de la musique et puis je passe avec mon encre de Chine et ma plume. Et après, je fais la couleur. Et si je loupe la couleur, je recommence du début.
Alors, le choix de votre palette.
Ben là, c'est l'automne dans mon histoire, donc sauf à la fin où ça commence à être l'été. Mais c'est l'automne, alors c'est des couleurs marron, rouge, jaune, beaucoup de jaune. Voilà, des couleurs dans les rouges, des couleurs assez pétantes quand même. Ben c'est pas encore l'hiver, quoi. Et j'aime bien cette saison, moi, où les arbres tournent au rouge, où on se met un petit peu dans l'hiver, mais il ne fait pas encore trop froid, on profite de la nature, donc c'est l'Ardèche à l'automne, avec les couleurs de l'Ardèche, qui sont un peu aussi bleutées dans les montagnes, un peu froides dans les minéraux, les cailloux, etc. C'est tout ça.
Alors, Lisa Abbe, on a vraiment le sentiment, en tant que lecteur, qu'il y a une sorte d'audace de votre part à mettre en couleur, mais pas de façon sage comme le font beaucoup d'auteurs de bande dessinée, où on a la recherche d'une teinte, voire un demi-ton supplémentaire pour les couleurs de peau ou pour les décors. Là, l'aquarelle et le trait de plume vous permet d'avoir une très grande variété. Pour le dessin aussi, on dirait qu'il y a beaucoup de liberté. Ça représente quoi, cette liberté d'exécution ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez affirmer ou c'est comme ça ?
Ben, je pense qu'encore une fois, je suis l'héritière de toutes les personnes avant moi qui ont libéré le trait, le dessin et la BD, et où je continue dans cette direction-là. où en fait la couleur elle me sert pas tellement à marquer, à dire tiens cette personne porte un pull bleu, mais plutôt à dire la lumière en ce moment elle est plutôt bleue, jaune, c'est le soir, les lumières baissent, etc. C'est plutôt à ça que ça me sert la couleur. Donc j'essaye d'avoir quand même une petite régularité sur les séquences, mais je m'encombre pas trop avec... Si au début du livre et à la fin du livre, mon personnage a des couleurs légèrement différentes de teintes de peau, de cheveux, ou tant qu'on le reconnaît, tant qu'on comprend, moi ça va marquer plutôt l'ambiance. Donc l'ambiance de la journée, mais aussi l'humeur.
Et donc, par exemple, pour la mise en scène, vous jouez avec des unités de temps et de lieu, et puis après, on va avoir une séquence rythmée de façon un peu plus classique que dans les bandes dessinées, avec le passage d'une case à l'autre, avec un écart de temps entre les cases. Là aussi, sur la mise en scène, vous jouez beaucoup et vous essayez de libérer complètement votre écriture ?
Sur la mise en scène, il faut encore une fois, tant qu'on comprend, c'est le principal pour moi. Il faut qu'on comprenne mon propos, parce que je veux quand même dire des choses. Et ensuite, sur la mise en scène, la mise en scène, c'est important pour comprendre. Donc je prends peut-être un peu moins de liberté que dans les couleurs quand même. Mais la mise en scène, il faudra juste que j'ai un décor, qu'on sache où on est. On est souvent dans des petits villages ou dans de la nature. Donc si on est dans le petit village, j'en sais rien. Si on est au bar, il faut qu'on comprenne direct, on est dans ce bar. Donc si je vais accorder de l'importance au point de vue où on se place dans ce bar, puis rythmer surtout, pour pas qu'on s'ennuie trop.
Alors, Lisa Hab, vous parliez du temps de réalisation. Qu'est-ce que... C'est 216 pages, donc c'est quand même un chantier. Pourquoi avoir voulu sortir en un seul volume ? Pourquoi ne pas avoir fait, par exemple, un, deux ou trois volumes qui auraient permis de peut-être une autre répartition de la création ?
Ah ben, ça c'est tout bête, mais c'est des volontés éditoriales déjà. Enfin, moi c'est mon premier livre solo, donc c'est la première fois qu'un éditeur me fait confiance à moi toute seule pour faire un livre aussi long. Donc vendre une série à un éditeur, c'est pas comme vendre un album one shot. C'est plus dur de vendre une série. Donc moi ou d'autres auteurs, autrices, on aura plus tendance à faire ce format-là de un seul épisode, parce que c'est tout simplement les contraintes éditoriales aussi de notre temps. Après, plus tard, si j'ai l'occasion de refaire des livres, normalement, maintenant que j'ai prouvé, entre guillemets, mes capacités à pondre 200 pages, ce sera plus simple d'imaginer peut-être une série en un, deux ou trois tomes. Mais voilà, pour commencer, c'était déjà un bon objectif.
Lisa Hab, comment ces gens qui sont nés quelque part ouvrent l'horizon pour la suite ? Qu'est-ce que va vous permettre de faire ce livre ?
Pour moi, personnellement, dans ma carrière...
Votre carrière, employons le terme.
Eh bien, plein de choses déjà. Moi, je suis comme tous les dessinateurs et dessinatrices précaires à devoir travailler sur plein de projets en même temps pour pouvoir exercer le dessin. Donc là, j'espère que ça va m'ouvrir des portes autour du dessin, surtout, pour pouvoir avant tout pratiquer le dessin dans mon travail. Donc là, j'ai un peu du mal à me figurer parce que je suis actuellement en congé maternité, alors j'ai pas trop de propositions encore.
Félicitations.
mais du coup, l'idée c'est des rencontres. Moi, j'aimerais bien travailler pour la presse. Je vais illustrer une thèse, la thèse d'une sociologue qui m'a contactée suite à cette BD, donc pour vulgariser sa thèse. Donc voilà, c'est des rencontres, c'est les gens vont voir ce livre et se dire tiens, cette personne existe, quoi. C'est ça. Et puis ça va m'ouvrir aussi la possibilité d'en faire d'autres plus facilement. Parce qu'une fois qu'on est rentré dans le monde de l'édition, la première fois, c'est plus simple ensuite d'y retourner.
Merci beaucoup, Lisa Abb, pour vos propos et merci d'avoir répondu favorablement à ma demande d'entretien.
Merci aux questions, c'est très intéressant.
Je vais rappeler les caractéristiques de votre livre, donc « Les gens qui sont nés quelque part », qui est paru au mois d'avril. C'est donc publié par Actes Sud Bande Dessinée et les 216 pages de votre livre sont au prix de 27 euros. Le livre a été imprimé en France. Bah, très bonne continuation à vous.
Merci,
à bientôt.
Merci infiniment.
Merci, au revoir.
Alors qu'est-ce qu'il vient, dit-on, qu'il est ? Qu'on ne voit plus.
Qu'est-ce qu'il vient ?
Je ne vois pas, dit.
Quoi ? Je suis à Londres, c'est pour ça.
Oui, ah si, je vois vos lunettes.
Oui. Et vous, êtes au soleil, là.
Qu'est-ce que vous faites ? Vous enregistrez ?
Oui.
Vous y arrivez là-dedans, oui ? Parce qu'il ne vous faut pas de bruit.
Hey.
Je voudrais terminer cette émission avec les cahiers de Douai. Ce sont des poèmes d'Arthur Rimbaud mis en dessin par Damien Cuvillier. J'ai présenté à plusieurs reprises, à deux reprises, le grand œuvre en cours de Damien Cuvillier qui s'appelle « Voleur de feu, une vie d'Arthur Rimbaud » dont les deux premiers livres sont parus. Avec les cahiers de Douai, Damien Cuvillier fait une sorte de pause dans l'écriture de ce grand œuvre et va s'approprier, rencontrer intimement la poésie d'Arthur Rimbaud. Et il va associer, faire dialoguer la poésie et ses dessins. exemple. Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, foulé l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin comme un bohémien par la nature, heureux comme avec une femme. Sensation est un poème de mars 1870. Il est associé à une image qui est celle de la couverture. Ce qui est assez étonnant, alors les cahiers de Douai, c'est le recueil de deux parties, deux séries de poèmes qui vont être donc associés dans les cahiers de Douai. Et Rimbaud va déposer le 26 septembre 1870 chez le poète éditeur douaisien Paul Démony une liasse de 15 poèmes empreints de révolte. Il ouvre une nouvelle voie à la poésie et les thèmes qui l'habitent restent d'une actualité confondante. Il raconte la misère, le racisme, mais aussi le désir. Il va écrire à l'éditeur « Brûlez, je le veux, et je crois que vous respecterez ma volonté comme celle d'un mort. Brûlez tous les vers que je fus assez sot pour vous donner lors de mon séjour à Douai. » Heureusement, l'éditeur n'en fit rien. Le recueil a lui-même son histoire. Il est transmis jusqu'aux mains de Stefan Zweig, qui l'acheta et le conserva jusqu'à sa mort en 1942. Et dans ce recueil des cahiers de Douai, dans le deuxième cahier, il y a le bateau ivre, par exemple. Imaginez si l'éditeur avait respecté la parole de Rimbaud. Ça, c'est le contexte. Et il y a maintenant le travail de Damien Cuvillier. Il y a cette façon de se confronter à une question fondamentale qui est comment dessiner la poésie. Il y a beaucoup d'adaptations littéraires avec des démarches assez différentes, mais finalement sur la poésie, on a principalement des recueils de chansons, souvent ou quelquefois de poésie, avec une sorte de mise en correspondance. Mais il n'y a pas cette volonté d'approfondir ce lien précis entre la poésie, les vers, les rimes et le dessin. Damien Cuvillier a choisi une sorte d'absolue précision de l'écriture dessinée. Elle était déjà à l'œuvre dans « Veleur de feu » ou dans ses œuvres précédentes comme « Le choix du chômage ». Dans « Voleur de feu », il y a tout un choix pictural qui est d'utiliser une couleur très, très claire avec une sorte d'aquarelle, là aussi d'une grande précision, où il y a ce dessin réaliste qui va donc se mettre au plus près de chaque geste, qui va capter les regards de Rimbaud, les regards de ses proches, qui va trouver une puissance d'évocation des paysages, des lieux, des intérieurs, qui va donner à chaque rencontre de Rimbaud pour donc ces deux premiers tomes cette puissance et cette précision de l'écriture dessinée. Là, avec les cahiers de Douai, en fait, c'est comme si Damien Cuvillier débarrassait l'approche de tous ses présupposés d'une écriture naturelle, de ce qu'il a fait avec « Voleur de feu ». Il adapte finalement le dessin, la forme narrative à la poésie. Il va utiliser la bande dessinée, comme une façon de mettre en image. Le texte du poème va donc apparaître dans les cases et la bande dessinée va se déployer sur une, deux ou trois pages. Et donc, on a cette correspondance, cette gestion du temps du récit qui est directement associée à celui du texte. Et puis, il y a aussi la présentation classique de la poésie avec le texte imprimé et en lien, en face, proche. Il y a donc une image avec un choix pictural précis, spécifique, pour chacune des poésies. Il va aussi bien utiliser l'aquarelle, les pastels, l'encre de Chine pour des dessins en noir et blanc, où il va jouer, il va s'attaquer à un réalisme où la tension qu'il va y avoir, par exemple, dans les mains d'un ferronnier qui est au travail, il va donner avec l'encre de Chine une précision dans ce geste, dans cette tension et dans cette façon d'évoquer ce métier. Et puis il y a les paysages, le choix de se confronter aux paysages avec ses différentes techniques, utiliser des façons de dessiner plus ironiques, plus oniriques également. C'est une palette étonnante. Et c'est une façon aussi d'éloigner un terme qui est souvent associé lorsque le texte reste présent, où on parle de texte illustré, de poésie illustrée. Il n'est plus question de poésie. C'est vraiment, et c'est Tardy qui l'affirmait lorsqu'il a illustré Voyage au bout de la nuit de Céline, c'est pas un texte illustré, c'est un texte où il y a une sorte de lecture faite par le dessinateur et qui, à travers ses dessins, va apparaître et va se confronter véritablement à la force du dessin, à la force de l'écrit, à la force du récit. Et là, Damien Cuvillier, avec ses différents choix picturaux, ses différentes façons d'aborder la puissance de chaque poème, il va cadrer, construire, imaginer une image avec telle douceur de l'aquarelle, la façon d'apporter une ombre avec un bleu intense, mais qui est toujours atténué, qui n'est pas le noir, par exemple, de l'encre de Chine. Son illustration du dormeur Duval est étonnante et c'est tout simple, ce n'est pas la description de la poésie, mais c'est vraiment un dessin qui met en image, qui met en perspective avec une dimension graphique la poésie. Mort de 92. Français de 70, bonapartiste, républicain, souvenez-vous de vos pères en 92. Paul de Cassagnac, Le Pays. Mort de 92 et 93, qui, pâle du baiser, fort de la liberté, calme sous vos sabots, brisiez le joug qui pèse sur l'âme et sur le front de toute humanité. Homme extasié et grand dans la tourmente, vous dont les cœurs sautaient d'amour sous les haillons, aux soldats que la mort a semés, noble amante, pour les régénérer dans tous les vieux sillons. Vous dont le sang lavait toute grandeur salie, mort de Valmy, mort de Fleurus, mort d'Italie, aux millions de Christ, aux yeux sombres et doux. Nous vous laissions dormir avec la République, nous courbés sous les rois comme sous une trique. Messieurs de Cassagnac, nous reparlent de vous. Mort de 92 a été fait à Mazas le 3 septembre 1870. Une excursion, une digression dans le voleur de feu. Damien Cuvillier avec les cahiers de Douai fait œuvre. On ne pourra plus dessiner la poésie de la même façon. Il y aura une sorte d'avant et d'après les cahiers de Douai. Les poèmes d'Arthur Rimbaud, mis en dessin par Damien Cuvillier, a été publié par les éditions Futuropolis. Et les 80 pages de ce récit en couleur sont au prix de 15 euros. C'est un prix attractif avec une tendance à la bande dessinée de faire un peu monter les prix. Le livre a été imprimé en France. La semaine prochaine, nous serons avec David Sala pour cette très belle mise en récit dessiné de Frankenstein de Marie Shelley. Bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Merci Antoine pour cette technique. Écriture dessinée.